Pour commencer, Zoé, ce journal des sciences revient bien sûr sur la semaine des Nobel, les trois prix Nobel de sciences attribués lundi, mardi et mercredi, la médecine, la physique et la chimie dans l'ordre.
Évidemment, donc comme chaque année, c'est la médecine qui a ouvert le bal lundi et qui a primé cette année une avancée sur le terrain de la physiologie puisque l'Académie des Nobel a décerné le prix aux Américains Jeffrey Seale, Michael Rosbach et Michael W. Young pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien, c'est-à-dire en fait comment fonctionne notre fameuse horloge biologique interne, ce qui jusqu'à ces travaux restait assez mystérieux, comme l'expliquait lundi Serge Birman, il est directeur de recherche au CNRS à notre Céline Lezen nationale.
Avant ces travaux, on ne savait rien. On savait depuis très longtemps qu'il existait un rythme endogène circadien chez l'homme et chez les animaux, mais on ignorait complètement quelles en étaient les bases moléculaires. Et en fait, ils ont découvert une boucle de rétrocontrôle négative au niveau moléculaire dans les cellules, qu'on appelle les cellules de l'horloge, qui sont les cellules du cerveau qui contrôlent le rythme circadien. Ce cycle, c'est un cycle en fait de synthèse et de dégradation de ces molécules au cours de la journée qui, à la fin, font que les animaux sont actifs dans la journée et dorment la nuit. Ces auteurs ont aussi identifié tout un mécanisme moléculaire qui permet de synchroniser l'horloge moléculaire au rythme extérieur.
Mardi, c'est la détection des ondes gravitationnelles qui a été récompensée par le prix Nobel de physique à travers trois pionniers américains, Zoé.
Rainer Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne ont été récompensés pour leur contribution décisive, je cite, au détecteur LIGO. Ce détecteur LIGO, c'est le détecteur américain qui a permis de détecter en 2015, pour la première fois, ces fameuses ondes gravitationnelles dont on ne cesse de parler, prédites par la théorie de la relativité d'Einstein. Depuis, je rappelle qu'on en a détecté trois autres. Et c'est Thibaut Damour, qui lui-même s'est vu décerner la médaille d'or du CNRS pour ses travaux théoriques sur les ondes, qui expliquait à Antoine Beauchamp mardi le travail des lauréats sur ce fameux instrument LIGO.
L'apport principal de Kip Thorne a été d'avoir la vision que ça allait être important pour créer une nouvelle astronomie, de détecter les ondes gravitationnelles, et ça très tôt, à la fin des années 70, il a poussé aux États-Unis pour la création de détecteurs et il a aussi indiqué qu'il y aurait des sources intéressantes possibles comme des systèmes binaires d'étoiles à neutrons puis de trous noirs. La contribution essentielle de Ray Weiss a été de faire une analyse du fonctionnement et des sources de bruit qui limitent la sensibilité d'un interféromètre. Et grâce à ça, il a été le premier à montrer qu'effectivement, un interféromètre allait pouvoir détecter des ondes gravitationnelles aussi faibles.
Et enfin, mercredi, le prix Nobel de chimie est allé au Suisse Jacques Dubochet, à l'Américain Joachim Frank et au Britannique Richard Henderson pour avoir mis au point la cryomicroscopie électronique.
Une méthode révolutionnaire d'observation des molécules biologiques qui a tout simplement révolutionné la recherche, notamment en termes de recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est ce que m'expliquait Rémi Froze. Il est microbiologiste, se sert de cette technique. Il est directeur de recherche au CNRS.
Il est plus que justifié, il était attendu, ce prix Nobel, depuis plusieurs années. Le père fondateur de la cryomicroscopie, c'est Jacques Dubochet, donc un des lauréats, qui a inventé la méthodologie de cryomicroscopie, c'est-à-dire cette adaptation de la microscopie électronique à des objets du vivant, puisqu'il a mis au point la méthodologie qui consiste à congeler donc des échantillons biologiques dans une très fine couche de glace vitreuse, qui est un état particulier de glace, et ça permet de pouvoir les regarder dans un microscope électronique en préservant ces échantillons biologiques et en conservant le pouvoir de résolution d'un microscope électronique qui est capable de voir à l'échelle atomique.
En bref, une étude publiée dans la revue Nature fait remonter les origines de la vie il y a presque 4 milliards d'années.
Oui, c'est une équipe japonaise de l'université Tokyo qui a affirmé avoir retrouvé au Canada, dans des roches sédimentaires du Labrador, du carbone, plus précisément du graphite, qui selon eux porte la signature isotopique du vivant. Et ce carbone, ce graphite daterait de précisément 3 milliards et 95 millions d'années. À l'époque où la Terre était encore bombardée par des comètes, c'est 100 millions d'années plus tôt que ce que les dernières études affirmaient et beaucoup d'équipes concurrente conteste aujourd'hui cet article.
La vie en tout cas aurait démarré dans des mares d'eau chaude.
Oui, des mares d'eau chaude qui auraient reçu des bouts de météorites ou de comètes et de ce mélange serait née la vie. C'est une étude canadienne qui se fonde sur des calculs astrophysiques qui renforce en tout cas cette théorie qui avait été formulée par Darwin dans les années 1870 et qui s'oppose toujours à celle qui verrait la vie naître plutôt dans les cheminées hydrothermales qui existaient à l'époque sur Terre.
Et le deuxième sujet du jour, des chercheurs français et américains ont découvert d'étranges étoiles géantes dans la Voie lactée.
Et cette découverte, on la doit à l'instrument spectroscopique, c'est très dur à dire, un instrument qui en tout cas détecte des choses grâce à son spectre. Cet instrument s'appelle Apogée et en fait il permet grâce à l'infrarouge moyen de voir des étoiles dans le disque de la Voie lactée qui jusqu'ici étaient invisibles à cause de la très forte poussière interstellaire qui existe. Et parmi les centaines de milliers d'étoiles qu'on a observées grâce à lui, eh bien l'équipe française de l'UTINAM annonce qu'elle a découvert des étoiles qui présentent une composition chimique très atypique, des étoiles énormes, tellement qu'on pense qu'il s'agit peut-être de très vieilles étoiles extragalactiques qui viennent d'ailleurs et qui, au cours de leur voyage, en auraient mangé d'autres, comme l'explique Annie Robin, elle est chercheuse à l'UTINAM et elle travaille sur ces étoiles.
On s'est rendu compte qu'il y avait quelques étoiles qui avaient des compositions chimiques anormales et en particulier, elles avaient des compositions en azote, en aluminium très fortes. Donc non seulement l'azote est très fort, l'aluminium est très fort, mais le magnésium et le carbone sont, eux, très bas. Donc en fait, on a des étoiles qui ont des compositions chimiques vraiment très bizarres et qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Alors pour ça, on a fait plusieurs choses. Déjà, on a regardé quelles étaient les orbites des étoiles grâce à un modèle sur lequel on travaille depuis assez longtemps à Besançon. Ça nous permet de voir que, par exemple, ces étoiles, elles sont actuellement dans le disque de la Voie lactée, mais en fait, dans leur passé, étaient beaucoup plus loin du plan. Donc, c'est pas vraiment une population typique du disque. Ensuite, au niveau composition chimique, on a rapproché ça de ce qu'on a vu dans des amas globulaires. Donc, un amas globulaire, c'est un ensemble d'étoiles très denses. C'est les premières étapes de formation de la Voie lactée, les amas globulaires. C'est vraiment les fossiles des premières générations d'étoiles de la Voie lactée. Ça veut dire qu'on voit dans le disque de la Voie lactée des traces d'amas globulaires qui se sont dissous au cours du temps. Et nos étoiles sont encore plus particulières que ça. Et du coup, on est en train d'essayer de comprendre au niveau évolution stellaire quel genre d'étoiles peuvent avoir enrichi le milieu interstellaire pour donner ces compositions chimiques très particulières.
En bref, une équipe du CHU de Lille teste une thérapie photodynamique inédite contre le glioblastome.
Ce fameux cancer aujourd'hui incurable, qui est le plus grave des cancers du cerveau dont on a régulièrement parlé ici. Après l'ablation de la tumeur suivie d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, les chercheurs utilisent en ce moment une forme inédite de thérapie photodynamique qui se sert donc de la lumière, qui localise et qui détruit normalement sans dégâts collatéraux les cellules tumorales qui restent. On attend évidemment des résultats sur le long terme.
Et pas de science improbable pour une fois pour conclure, mais en revanche un programme scientifique très très chargé Zoé tout au long du week-end.
Oui, la semaine a déjà été riche et l'amateur de science ne sait plus où donner de la tête, c'est votre cas évidemment, hein, Nicolas Martin, et c'est tant mieux. Rappelons d'abord la remise mercredi 3 octobre, donc c'était mercredi dernier, du fameux prix Goût des sciences 2017 dont nous sommes partenaires. Il est allé à Jean-Baptiste de Panafieux, prof de SVT, pour son génial Darwin à la plage, l'évolution dans un transat paru aux éditions Duno, qui nous raconte tout simplement comment Darwin a révolutionné notre vision du monde, et à Hélène Raïcac et Damien Laverdin, qui ont reçu le prix Jeune pour les mondes invisibles des animaux microscopiques, inventaire de ces animaux fantastiques qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là. Et alors, si vous êtes plutôt film que livre, sachez que se tient depuis lundi et jusqu'à dimanche prochain le superbe Festival international du film scientifique. C'est au Muséum d'histoire naturelle à Paris et à l'Institut de physique du Globe de Paris toujours. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas content...
On est déjà content.
Vous êtes déjà quand même
content. On est déjà content.
Mais bon, peut-être que vous n'habitez pas à Paris, donc vous n'êtes pas si content, mais, et c'est là que c'est bien, c'est la fête des sciences à partir de demain et jusqu'au 15 octobre partout en France. 2500 événements avec un superbe site qui recense tous les villages scientifiques, parcours scientifiques, événements, projections qui ont certainement lieu près de chez vous.